Et vous écoutez France Culture. Non, sérieusement, la seule politique qui tienne, c'est l'acte présent. Mathilde Marie de Malfilâtre. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui prend ce soir, sautant sur le marchepied et sans billet aucun, le Babylone Express, titre du premier roman de Mathilde Marie de Malfilâtre, paru aux éditions Le Dilettante, récit d'une vie en vrille hors norme et dans l'élan qui mène son héroïne Luna de Paris, des rangs de la gendarmerie au monde du libertinage et au business de la drogue. Chronique en second temps d'émission de L'amour est une fête de Cédric Anger et de la récente sortie en Blu-ray et DVD de Frayeur de Lucio Fulci. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, dont l'invité ce soir, Mathilde Marie de Malfilâtre, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, question inévitable, est-ce que c'est un pseudonyme? Parce que ça, c'est des prénoms comme on en trouve chez Villiers de l'Isle-Adam, avec les demoiselles de Bienfilâtre, ou dans les poésies de Francis Jammes, Clara Delébeuse, Rose de Limareuil, il faut ce que vous appelez véritablement Mathilde Marie de Malfilâtre.
Oui, il s'agit de mon nom, exactement.
Le nom de vos parents, donc.
Oui, le voilà. Nom de mon père, de Malfilâtre.
Et on imagine un château perdu dans le Languedoc, ou dans le Calvados, ou dans les brumes du...
Eh bien, c'est plutôt une ancienne ferme. Ancien corps de ferme au milieu des champs.
Voilà, c'est là où vous avez grandi.
Oui, en partie.
En partie, on va voir que vous n'avez pas grandi. Que là, en tout cas, vous êtes notre invité avec donc ce Babylone Express qu'on vous invite à prendre, paru aux Dilettantes et qui est pour nous quand même un des chocs de la rentrée. Vous serez soumise aux questions pieds poings de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va-t-il?
Mais admirablement.
Tout va
très bien.
Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'on s'est vu?
Une petite escapade à Deauville.
Alors,
pour
racontez.
Rendre hommage à Morgan Freeman.
Ah, C'était
quand même une nécessité. On l'avait sous la main et de pouvoir saluer ce pan de cinéma américain qui représente toujours quelque chose en termes d'acteurs, ses compositions chez Eastwood et pas seulement. Enfin, souvenons-nous que c'est quand même quelqu'un qui a joué Dieu, ça doit vous toucher.
Oui, c'est sûr
et que c'est
forcément un rôle de composition.
En étant à la fois l'ami de Batman et de Robin des Bois.
Voilà.
Et Mandela l'avait désigné comme étant l'acteur le mieux à même de le représenter, ce qui fut fait dans Invictus.
Eh bien écoutez, très bien, merci pour cet aperçu sur Morgan Freeman. Et maintenant, on va très très vite ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais gens. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
De qui s'agit-il ce soir?
Il s'agit ce soir de Marie-Pierre Brunel.
Ce phénomène que j'essaye d'exprimer dans pas mal de dessins et de peintures qui s'appelle l'inquiétante étrangeté, qui est un peu un jeu que j'ai avec les gens qui voient mes œuvres. C'est-à-dire que j'essaye quand même toujours de créer une tension qui induit peut-être un malaise, mais en tout cas une interrogation. Moi, j'ai envie que les gens ils se demandent mais d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, en quoi ça fait appel, eux, dans leur inconscient. Et du coup, oui, l'inquiétante étrangeté, c'est un terme de psychanalyse de Freud. C'est jamais gratuitement joli. Après, il y a des gens qui trouvent ça vraiment très sombre et qui me demandent si je ne dois pas aller voir un psy. Mais c'est peut-être ma thérapie à moi de produire des images. Mais je trouve ça intéressant au moins de susciter quelque chose, quoi, d'aller un peu trifouiller dans le cerveau des gens. Voir s'il y a des choses qui remontent ou qui les intriguent quand ils voient ce que je fais.
Marie-Pierre Brunel aime explorer les univers. Elle s'intéresse à l'humain et ses croyances, à l'anthropologie, au sauvage qui est tapis en nous. Les masques, le carnaval, les costumes, mais aussi le rêve, tout ce qui cache et dévoile en même temps, sont des thèmes que l'on peut retrouver dans son travail, peinture, dessin, sérigraphie, gravure et tatouage. Sa dernière série de peintures intitulée Orisha se retranscrit des mondes clos dans des couleurs souvent bleutées qui intègrent des éléments du candomblé, religion afro-brésilienne avec ses divinités Orishas et ses rites de possession. Sa peinture Passarinho représente une petite fille portant un masque africain sur le visage, les mains levées, un serpent sur la tête, en train de contempler un oiseau. En arrière-plan, quelques habitations et la lisière de la forêt. On ne sait pas si l'enfant vénère l'oiseau ou s'il le craint, pas d'indice, car les tableaux de Marie-Pierre Brunel provoquent des impressions, donnent à voir des situations qui pourraient être vécues comme des rêves, à moins que ce ne soit des cauchemars. Comme par exemple cette autre série de gravures, cette fois-ci, intitulée « Asuras », du nom des démons du panthéon védique indien.
Comme j'utilise aussi des images issues de livres d'éducation des années 50-60, il y a un côté un peu old school, je dirais, enfin vintage, dû aux vêtements, coiffures par exemple. Mais en fait, là, on voit des enfants qui sont effectivement violentés par des démons qui ont des formes humaines et animales. Pour moi, c'est une espèce de traduction de tout ce qui est angoisse et cauchemar lié à l'enfance. Parce que je pense que moi, je faisais des cauchemars comme ça quand j'étais enfant. J'ai grandi à l'orée d'une forêt et c'est vrai que tout mon imaginaire s'est formé avec des courses-poursuites dans les bois, de monstres ou d'animaux sauvages. Et pour moi, c'est normal et ça faisait partie de ma construction, de mes jeux, d'avoir des angoisses un peu enfantines, tout en sachant que c'est des cauchemars, donc c'est pas réel, en fait. Mais ça traduit probablement des angoisses psychologiques de quand on est enfant. Mais après, les gens sont assez choqués de voir que je mets souvent en scène des enfants qui sont dans des situations assez inquiétantes. Mais pour moi, ça fait aussi un contraste. C'est-à-dire que la figure de l'enfant, son innocence, même si les enfants ne sont pas toujours innocents, ça crée vraiment une image forte. C'est-à-dire que, oui, quand on fait du mal aux enfants, tout le monde s'offusque, quoi. Mais alors que le monde est un endroit ultra violent, et on a l'impression qu'on est de plus en plus indifférent à cette violence. Peut-être qu'en utilisant, en faisant des collages comme ça d'enfants et de démons, j'arrive à interpeller quelque chose chez les gens aussi, quoi.
Alors, est-ce que vous pourriez me décrire quelques démons et quelques situations?
Alors là, on a un enfant accroupi à genoux qui semble prier, qui est au milieu de flammes, avec un démon qui le menace d'un bâton.
Et ce démon ressemble à quoi?
Alors lui, il a une tête assez particulière, parce qu'il a un peu des oreilles d'éléphant, un museau, mais avec beaucoup de dents, qui pourrait ressembler à celui d'un crocodile. Une longue queue reptilienne et des écailles sur les jambes.
Tout ça en noir et blanc?
Tout ça en noir et blanc, parce qu'en fait, c'est des gravures sur plexiglas. Tout ça a été gravé sur du plexiglas avec une pointe sèche, et ensuite ancré et ensuite imprimé. Donc ça, c'est le livre est issu des gravures.
Pour retrouver l'univers de Marie-Pierre Brunel, vous pouvez aller sur son site internet www.mariepierrebrunel.wordpress.com ou sur son compte Instagram au nom de Yoko Gaga. Asuras est un livre publié par White Rabbit Productions et pour découvrir ses orichas, direction Lyon, où Marie-Pierre Brunel expose en ce moment à la galerie Paul Ripoche et ce jusqu'au 3 novembre 2018.
Merci Céline pour ces rencontres. Marie-Pierre Brunel, Marie-Mathilde Malfilade, vous, quelle a été votre réaction face à l'art,
oui,
de Marie-Pierre Brunel?
Oui, appelez-moi Mathilde,
appelez-moi Mathilde, on dirait le titre d'un film de Billy Wilder. Appelez-moi Mathilde, oui, Mathilde.
Bah, j'adore, surtout la petite carte là avec le chaperon rouge. Face à l'animal à la tête de mort. Ouais, moi j'aime bien les fables modernes comme ça.
Mm-hmm. C'est un peu ce que vous essayez de faire, d'ailleurs, des fables modernes, où personnages sont un peu des personnages de femmes. Mais alors, dans Babylon Express, dont on va parler dans cette émission, il y a beaucoup de musique, mais il y a peu de peinture, il y a peu d'art plastique. Qu'est-ce qui vous séduit en art plastique? Vous êtes plutôt sculpture, gravure,
la
peinture?
La photographie.
Oui. Et quel photographe?
Alors, j'aime beaucoup Nan Goldin.
Mm-hmm.
Ouais. Et après, en fait, c'est Marco, à la base, qui est photographe artistique, et j'ai été donc son modèle, et j'ai été un petit peu initiée aux bases de l'art photographique, voilà, donc notamment j'ai eu un lomographie.
Un quoi?
Un lomographie.
De quoi s'agit-il?
Ça, c'est un appareil photo, en fait, qui est argentique, et qui était utilisé par les Russes, qui a été remis au goût du jour. Voilà, j'ai eu un petit lomographie, Et en fait, Babylon Express, c'est un livre, mais ça pourrait être un roman photo.
Ah, bah,
parce qu'il
voilà,
y a toutes les photos de l'époque. Voilà.
Vous avez les photos qui...
Eh oui, j'ai les photos de l'époque.
Bah, très bien, bah, quand on saura ce qu'il y a dans Babylon Express,
alors, on veut absolument une nouvelle édition.
Très curieux de savoir voilà. comment
et
sont
oui,
les photos.
Et oui, parce que bah, Marco, lui, photographe, et moi, avec mon petit Lomo, bah, on a mitraillé, quoi.
Céron, mesdames, messieurs, un choix de Laurent Polleret pour ouvrir cette émission babylonienne et express de ce soir à Mauvais Genre sur France Culture.
Et Céron qu'on entend dans le film de Gaspard Noé.
On va en parler tout à l'heure du film de Gaspard Noé, parce que les fêtes qui dégénèrent, notre invité de ce soir, on a connu un certain nom. Mais n'allons pas plus vite, de même que les gens doivent se demander qui est Marco dont
mais
on
oui.
parle. Bah Marco, vous allez voir qui c'est. Mais en attendant, on va un petit peu découvrir Mathilde Marie de Malfilâtre, qu'on appellera Mathilde tout au long de l'émission. Et d'abord, on va découvrir cet ancêtre, Jean-Louis Clinchamp de Malfilâtre, poète maudit. Vous avez dans votre arbre généalogique un drôle d'oiseau. Qui est-il, ce monsieur Clinchamp,
ouais.
le maudit?
Eh bien, mon ancêtre, Jacques-Louis Clinchamp de Malfilâtre, était un poète maudit, un ami de Chateaubriand, qui parle de lui d'ailleurs dans ses mémoires. Et il a gagné au Palino, qui était un espèce de concours de l'époque.
Donc début fin 18e, début 19e.
Voilà, tout à fait. Et il a gagné donc deux fois au Palino avec une œuvre qui s'appelait Le soleil fixe au milieu des planètes et qui resitue en fait la place de la Terre au sein du système de Copernic. Voilà, et donc à la suite de ça, il a été nègre. Il s'est mis au service de divers princes en Europe.
Dont il fallait écrire les mémoires.
Et... Tout à fait. Et à l'issue de ça, donc il est décédé, vraiment, il a fini de façon assez tragique, le pauvre. À 35 ans, il est décédé d'un abcès au genou.
Oui, mais ça, ça suffit pas pour faire de vous un poète maudit. En quoi était-il maudit? Est-ce qu'il a tenté de placer des œuvres qu'on lui a renvoyées au visage? Est-ce qu'il avait une inspiration sacrilège, profanatrice? En quoi était-il maudit à part ce destin malheureux?
Alors, il était maudit parce que le mec, il était quand même assez perché dans les astres. Hein. Je pense que
oui,
c'est ça.
Il était un peu foufou.
Ouais. Et il a été élevé chez les jésuites. Voilà, il s'apprêtait à prendre la soutane. Et puis, finalement, c'est l'art qui l'a rattrapé.
Et donc, il est devenu ce qu'il est devenu, surrouillé.
Il est devenu ce poète maudit que nous évoquons. Mais on peut imaginer qu'entre le moment où il gagne son concours de poésie, où il devient le nègre des grands de ce monde, il y a peut-être eu quelque chose entre les deux qui fait qu'il n'a pas pu développer son univers personnel.
Non. En fait, il a été ruiné par, été ruiné par sa famille. Il avait trop bon cœur. Il avait trop bon cœur. Et voilà.
Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attention à ne pas être ruiné avec vos droits d'auteur.
Alors justement...
Attention à mes genoux.
Babylon Express. Alors, il faut d'abord lever une équivoque, éclairer nos auditeurs et potentiels lecteurs. Mathilde, s'agit-il d'une pure fiction? S'agit-il de mémoires, comme celles qu'en écrivait, mais là, c'est vous qui les avez écrites, il n'y a pas eu de négresse, votre ancêtre, ou s'agit-il d'un mélange subtil entre ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire entre des mémoires intimes, très intimes, et puis des rêveries ou des fantasmes?
Oui, c'est tout à fait ça. Il s'agit d'une œuvre autofictionnelle. Voilà, roman autofictionnel, évidemment assez fortement inspiré par mon vécu. Voilà, mais ça reste un roman.
Ça reste un roman, mais malgré tout, il y a de ces vrais morceaux de vécu dedans, comme on dit.
Oui. Il y a une bonne tranche de vie là-dedans.
Il y a une bonne tranche de vie, parce qu'en effet, Philippe Rouillet, c'est quand même une histoire peu commune. Au départ, nous avons Luna, alors qui va devenir Luna de Paris, oui. Princesse de l'ombre, déesse de la nuit, grande dileuse.
Mais au départ, elle est gendarme.
Au départ, elle est gendarme. Elle est même c'est pas la gendarmette comme on peut en voir dans les
chez
films.
Chez Louis de Funès.
Chez Claude Zidi. C'est une gendarmette. Elle est gendarmette à la direction générale de la gendarmerie nationale. Elle est lieutenant. Et on lui confie des dossiers brûlants, des exercices d'infiltration ou d'observation de certains milieux comme les milieux éco-terroristes. Donc au départ, vous avez un personnage quand même très cadré, qui a des bonnes notes à l'école, qui a des diplômes, qui rentre dans la gendarmerie. C'est véritablement.
Ça, c'est la réalité.
Une jeune fille de bonne famille.
Un accomplissement.
Ah. Et ça, c'est la réalité.
Ça, c'est la réalité.
Oui, c'est la réalité, tout à fait. Luna et moi, on est des petits bébounés de très bonne famille, à la base.
Des enfants de la génération shit et de la génération babylone, mais avant cela, vous êtes des bébounés de bonne famille. Alors, votre famille, justement, on a parlé de l'ancêtre maudit, mais vos parents, vous les appelez Bernard et Bianca, ce sont tous deux, votre père est un aristocrate, votre mère également issue d'une société, de la haute société.
Oui, l'aristocratie décadente.
C'est-à-dire ?
Et ruinée, depuis pas mal.
On peut être ruiné sans être décadente. Vous, les décadentes, ils se livraient à des frasques peu communes.
Alors, décadente, je dis ça pour ma mère, parce que du côté de ma famille maternelle, c'était à la base une grande famille romaine.
Italienne, romaine,
qui a perdu la guerre contre le pape et qui a été exilée dans le Piémont. Donc là, c'est une décadence. Ouais.
Déclassement plutôt.
Ouais.
Et du côté du père ?
Et du côté du père, c'est l'aristocratie, c'est la petite noblesse de guerre. Au départ, les malfilâtres, c'était des mercenaires catalans, qui ont été recrutés par Guillaume le Conquérant dans le but de conquérir l'Angleterre. Ils se sont illustrés lors de la bataille d'Hastings et ont ensuite été anoblis.
C'est le côté gendarme.
Voilà, et c'est tout à fait le service à la patrie qui a été quelque chose d'assez fort dans ma vie et qui l'est toujours d'ailleurs, peut-être différemment. Et donc à l'issue de la bataille d'Hastings, ils se sont installés en Normandie et ils ont été anoblis de malfilâtres. Ils ont été appelés la famille de malfilâtres.
Ah bien, merci pour cette présentation généalogique. Alors parlons un peu de vous, parlons de Luna. Comment s'est passée cette vocation militaire ? Parce que la gendarmerie, c'est l'armée. Cette vocation militaire et pourquoi a-t-elle tourné court ? Puisqu'apparemment, effectivement, vous avez un peu tombé l'épaulette.
En 2012.
Même si vous les avez gardées en souvenir.
Oui,
Pourquoi vous êtes entrée dans l'armée ? Question simple.
Déjà, je me considère comme une enfant de la patrie. L'honneur de servir mon pays et ses concitoyens, c'est ça qui m'attirait énormément, ce qui me motivait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été formée pour travailler sur Al-Qaïda. Et l'univers... C'est un petit peu
d'Al-Qaïda.
Moqué de moi. Non, le grand univers.
le monde.
Voilà, m'a joué un tour. C'est-à-dire que je suis arrivée dans le service en face. Et dans le service en face, il se trouvait qu'on pourchassait des éco-terroristes. Voilà, il s'agit en fait d'une grossière erreur d'affectation.
Administrative, d'affectation. C'est Brésil, votre histoire.
Voilà, presque kafkaïen.
Vous vous rêviez en Rambo, en train de crapahuter dans le désert ou d'enquêter sur des réseaux terroristes et vous vous retrouvez, pas aux archives, mais avec des dossiers.
Ah non, pas aux archives, pas du tout. Non, là c'était une unité de renseignement qui est une des plus pointues en Europe au sujet de l'écologie radicale. Mais moi, j'ai toujours eu des convictions plus ou moins écologistes.
Oui, un peu végane.
Alors, pas à l'époque, à l'époque, quand je suis entrée en gendarmerie, non. Mais déjà, dès l'enfant, j'ai été végétarienne. Et voilà, je me suis trouvée tout de suite en désaccord avec mon enfant intérieur.
Donc vous aviez une carrière bien tracée, vous aviez un encadrement quand même parmi les plus robustes qui soient. Et puis, bah, ma foi, quelque chose a eu lieu, quelque chose s'est déroulé qui a envoyé tout cela, je dirais pas, en tout cas au loin, en tout cas par-dessus les moulins. Be Brave, Tropic of Cancer, qu'un choix de notre invitée Marie-Mathilde de Malfilade. Quelques mots sur ce que l'on entend ?
Oui, alors ça c'est de la dark wave. Moi j'ai eu une époque où je me suis noyée dans la dark wave.
Pourquoi ?
Parce que c'est une emblème, c'est musique emblématique de ma vie. Luna et Marco, ils sont fans de dark wave.
Et en ouais. quoi la dark wave les parle, en tout cas, leur correspond plus que tout ?
C'est de la post-punk. Ouais, post-punk, c'est eux quoi, ça les représente.
Be Brave, Tropic on Cancer, un choix de Marie-Mathilde de Malfilade, notre invitée ce soir dans Mauvais Genre pour Babylon Express qui paraît aux éditions Le Dilettante. Alors cette carrière prometteuse, glorieuse de gendarme, et plus que de, pas de gendarmette, mais de vrai gendarme, eh bien
elle va
se trouver, je dirais, déviée et abrégée par une rencontre, celle de Marco von Z, qui lui aussi a des antécédents italiens de souche, au moins.
Alors la très haute, hein. Là voilà. On est dans la très haute aristocratie.
Bah, on va d'abord évoquer votre rencontre, puisque ça fait partie de ces tournants décisifs. Marco von Z, c'est lui aussi un poète maudit de la vie, on peut le dire. C'est un personnage qui est un dealer, c'est un personnage errant, c'est un personnage charismatique, mais fascinant. Mmh. Et donc c'est lui qui va littéralement, comme vous le dites, vous retourner le cerveau.
Oui. Oui, 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 à Marco, gros charisme. Un espèce de Neil Cassady, le personnage qui a inspiré sur
Ginsberg,
la route.
Ginsberg, Kerouac,
ouais. Ouais, 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 ouais. Et on pourrait le mélanger
c'est
aussi.
C'est sur la route que vous le rencontrez, d'ailleurs.
Eh oui, dans une station de bus.
Au
tout
Maroc.
À fait, à Mogador. Et le mec, on pourrait le mélanger, par exemple, avec Barry Lyndon, avec Orange Mécanique, avec Trainspotting et Sur la route. Voilà. C'est le type, il est machiavélique. C'est le prince de Machiavel. Voilà, il baisse comme un dieu, il deal depuis le berceau.
Tout pour plaire.
Et bien sûr, évidemment, c'est le méga coup de foudre.
Vous n'étiez pas à vos débuts, des 14 ans à Amsterdam, 1er juin.
Ouais, ouais. Donc, alors, moi, j'ai commencé à zoner gentiment, depuis que je suis toute jeune. Mais vraiment, c'est Amsterdam, premier spliff, en écoutant Tupac, avec un boyfriend qui commençait à dealer la cocaïne dans les rues d'Amsterdam. Mais à côté de ça, j'avais des très bonnes notes, hein, donc on me laissait zoner, quoi, tranquille. Et par la suite, donc moi j'ai passé une partie de mon adolescence à la Mare au Diable, à Caen, boîte de nuit mythique, la techno des années 2000, milieu déjà un peu underground. Et ensuite il y a eu la bande Azaza.
C'était quoi la bande Azaza ?
Alors la bande Azaza, Zaza c'est la meilleure amie de Luna, et c'est quelqu'un qui connaît le tout Paris, la jet set. Ouais. Bien barré.
Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que ça ne va pas entraîner une rupture sèche, une sorte de désertion subite avec la gendarmerie. Vous pendant un certain temps, vous êtes menez de front à la fois votre activité de gendarme à la caserne Babylone, parce que le fameux Babylone Express est à la fois la grande Babylone, la mère de toutes les perversions et les perditions, et puis en même temps la caserne de Babylone où il y a la gendarmerie. Donc les gendarmes ne savaient pas qu'ils abritaient un couple maudit dans leurs enceintes.
Soit en passant, Babylone veut aussi dire flic en argot.
Ah bah écoutez.
En Babylone, ouais.
Donc alors effectivement, parlez-nous de ça.
La double vie.
Oui, tout à fait. Alors il y a cette rencontre entre Luna et Marco. Alors là, ce qui va se passer, donc en fait, c'est déjà il y a une crise de conscience auprès de cette lieutenante de gendarmerie. Est-ce que ce qu'elle fait, c'est servir le pouvoir? Est-ce que c'est servir les gens?
Oui, parce que justement, être contre l'écoterrorisme, sans embraser la cause écoterroriste, se dire que peut-être ils ont pas totalement tort et que est-ce
exactement.
Que c'est une bonne idée de les traquer.
Exactement,
quoi.
Exactement. Et l'élément déclencheur de tout ça, ça a été la rencontre avec Marco Van Zedd et la prise de drogue simultanée. Et ça, le lendemain, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même.
Toujours sous l'uniforme
et qu'elle allait vivre enfin en accord avec ses principes.
Alors le monde de la drogue, Mathilde, ça n'est pas une donnée brute. Il y a les drogues, puisque vous abordez avec Marco Van Zedd, qui est votre bon ange, votre mauvais ange, ça dépend des moments. Les deux en même temps, souvent, vous abordez l'univers de la drogue, à la fois en businessman et businesswoman, puisqu'il s'agit d'en faire l'achat, d'en acheter, d'en trafiquer. Donc il y a le deal d'une part, et puis à côté de ça, il y a presque un côté gastronome, c'est-à-dire que d'expérimentation, alors évidemment pas de la gastronomie comme une autre, mais il y a l'idée que le H, eh ben, ça oriente vers une certaine vision du monde, une certaine sensibilité, une idiosyncrasie particulière, le LSD vers d'autres. Bon, c'est pas nouveau, mais ça, vous en parlez et vous l'avez expérimenté. Alors, vous pouvez nous faire un petit peu un paysage comme ça, hallucinogène?
Oui. Alors, tout d'abord, il faut dire aussi que Marco et Luna, ils vont préparer ce trafic de drogue basé dans la caserne Babylone. Et il va y avoir un véritable business plan. C'est une mission, c'est une OPEX.
Parce que l'idée, c'est de ramasser 30 000 euros. Hein.
C'est ça, pour se reconvertir.
Dans la naturopathie.
Métier. Dans la naturopathie, quelque chose qui est vraiment en accord avec elle-même et avec eux. Donc, il y a une opération militaire qui est menée. Voilà, tambour battant. Et tout est organisé de façon à ce que ça puisse... à ce que, lorsqu'elle quitte la gendarmerie, tout soit mis en place. Alors oui, un petit goûter mio, des drogues. Alors disons que, en fait, il y a les psychotropes qui sont pour moi des méga amplificateurs de conscience. Ils ne sont ni plus que notre réalité méga amplifiée, ni bonne ni mal. Attention.
Donc dans les psychotropes, on loge quoi alors?
Alors les psychotropes, on va loger donc le cannabis, le LSD, la mescaline, le peyote. Voilà, à côté de ça, on va avoir les drogues chimiques. Alors ça, c'est complètement un autre trip. On a la cocaïne, l'ecstasy, voilà, etc. Et ça, c'est plutôt des effets que je qualifierais l'alcool. On va plutôt qualifier d'effets anesthésiants. Deux choses complètement aux antipodes, ouais. En tout cas, ils ont testé pas mal de trucs. Et c'est surtout lui hein, qui est un grand connaisseur de LSD qui va l'initier. Parce qu'elle, avant ça, elle n'a pas fait grand-chose. Hein. Elle a fumé quelques bédos, tiré quelques rails, mais c'est rien de bien méchant. Hein.
Mais même au cœur de l'opération, elle va rester quand même un peu en deçà par rapport à
alors,
Marco.
Alors, le but, alors lui, tout ce qu'elle, elle va prendre, il va le prendre fois 3.
Voilà.
Ça, c'est clair. Et ensuite, bah oui, non, elle a un guide. Elle a quand même un guide de choix. Et elle va utiliser, ils vont utiliser ces drogues. Le but, c'est de ne pas tomber dans l'addiction. C'est le trafic de drogue, la drogue, c'est pas un but en soi. C'est juste un moyen pour arriver à quelque chose. Pour déjà amasser les 30 000 balles. Et ensuite de ça, bah, quand même s'amuser. Parce que c'est des gros kiffeurs.
Oui, c'est ça, justement. C'est le but. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le trafic de drogue et la poursuite de la gendarmerie par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une méthode militaire, vous parlez d'opération militaire qui est mise en place. Et donc, ça, c'est quand même assez impressionnant de voir la manière dont c'est construit, quoi. C'est véritablement géré.
Et ça découpe le livre. Enfin, il y a opération avec plusieurs niveaux dans l'opération. Voilà, et voilà. On passe les niveaux les uns après les autres.
On pourrait vous demander éventuellement s'il y avait de la drogue dans la gendarmerie avant. Donc, s'il y avait pas, vous n'avez pas été initié par vos collègues de la gendarmerie à certaines...
Oh non.
Non, c'est pas...
Sûrement pas, non.
Sûrement pas, c'est totalement actuel. Alors la drogue, évidemment, il y a ceux qui en trafiquent pour amasser un petit pactole et ensuite devenir naturopathe. Il y a ceux qui en consomment, mais il faut faire attention, il faut freiner à ras le ravin, il faut pas culbuter dans l'abîme. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu, je dirais, on parle des goûts émillots, qui sont les grands gastronomes de la chose. Et là, vous allez à Marrakech, à El Koutoubia, voilà. Dans un oasis, et là vous rencontrez le vieux de la montagne, la conscience véritablement du commerce de hash local.
Ouais, alors Stan, c'est le dealer, c'est le papa vénéré de la drogue, petit papa Noël de Marc et Luna. Et en fait, il s'agit d'un ex-playboy, musicien, un mec de l'Est, installé à Marrakech depuis 30 ans. Et ce mec-là, c'est une légende vivante du hashish. Il y a des trippeurs du monde entier qui viennent s'approvisionner et ensuite qui desservent leur marché de niche après en Europe et ailleurs. Et c'est une légende vivante. Il habite au Riad Koutoubia et là, c'est la drogue non-stop. Extra, coco, thé à l'opium, c'est la fête non-stop.
Alors, ce qui est quand même important, c'est de toujours garder le contrôle, la maîtrise, puisque le but, c'est pas la drogue. Le but, c'est une espèce d'autre chose, de libération. Philippe en a parlé, c'est la naturopathie.
Ouais, alors, bien sûr, hein, le but final, c'est la naturopathie, c'est à double sens. Parce que c'est d'abord se permettre à soi-même de se soigner. Et évidemment, de ne pas rester dans la drogue, hein, de se sortir de l'addiction. Et ensuite, évidemment, en faire un métier, tourner vers les autres.
Parce que le but, c'est non pas se servir, mais servir.
Ce qui était déjà le but de la gendarmerie.
Voilà, c'est enfin, ça.
C'est ça qui est extraordinaire. En fait, c'est une continuité. C'est complètement hallucinant, mais il y a une continuité.
Entre le deal de shit et la gendarmerie, il y a une sorte de continuité conceptuelle. Ouais. Pour parler comme Frank Zappa, donc une véritable...
Et Luna, bon, elle est un peu provoque. Hein, Luna, elle dit, voilà, mais moi, je trafique, mais je fais ça pour le bien-être de l'humanité. Parce qu'après, moi, je vais devenir naturopathe et je vais aider mes concitoyens. Hors cadre idéologique, hors cadre social, et étatique.
Babylon Express, acte 5, le saut de la mort. Le grand micmac va débuter, mesdames et messieurs, négoce de drogue dure, carambouillage, grande braderie annuelle de la schnouf. 1, 2, 3, partez. À vos porte-monnaies, à nous la fortune. J'attaque assurément la partie la plus casse-gueule de l'OP. Va falloir broder, faire dans la dentelle. J'ai franchement très peur des renseignements généraux. Je sais que je suis, ou je vais être, surveillé. Tôt ou tard, une ex-flic de la DG, tu parles s'ils vont me lâcher comme ça dans la nature. Consigne, faire, profil bas. Être extrêmement vigilant. Attention aussi à pas trop plonger le nez dans la cam, c'est vite fait. Touche pas au matos quand tu marchandes, mon chou, ou t'es un homme mort. Bon, je sens que ça va être du rail. J'appréhende. Je ne sais pas si on va s'en sortir, ni dans quel état. Récapitulons, mission, vendre un maximum de paras. Objectif, les gens de la transe, gentils, niais, des gosses de riches, pleins aux as et dépravés, des vieux teufeurs, des noctambules fonce-dés, bref, les classiques fêtards en face de déchéance aiguë, quoi. Cible, les caves underground, les boîtes glauques, les soirées dubstep, les péniches disco, les hangars de la drum and bass, en gros, l'ensemble des cabarets pourraves et des clubs destroy de la ville. Produits, molécules d'ecstasy pure, action, une bonne plongée au cœur de la scène électro-trash de la capitale. But, encaisser le pèse, risque maximal. Je suis pas inconsciente, mon Dieu, mais avec la CAM de Berlin, le supermarché chic de la drogue, on a le meilleur rapport qualité-prix d'Europe. Un atout majeur, et puis, je m'en remets à l'univers.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Qui reçoit ce soir Marie-Mathilde Malfilâtre pour Babylone Express aux éditions Les Dilettantes, un livre dont vous venez d'entendre un extrait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une circulation européenne. L'Europe du shit est en marche. Là, véritablement, vous ricochez entre Marrakech, Paris, Berlin, l'Italie. Il y a véritablement une sorte de grande circulation qui va dans le sens un peu de la vie inimitable que vous voulez mener avec Marco von Z. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une vie de petit négociant, il s'agit d'exploser.
Oui, sans être quand même sur quelque chose de trop gros. Hein. On est dans la moyenne haute intensité délinquante. Marco et Luna sont des sales petits joueurs. Ils vont jouer à la roulette russe, au poker, avec l'existence. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et ils vont mettre en place le réseau. Alors d'abord, il y a le réseau or. Ça, c'est la base. Hein. Donc c'est trafic de shit, faire du bénef, engranger et passer au stade supérieur. Le stade supérieur, c'est le triangle d'or. Paris, Marrakech, Berlin. Voilà. Ramener le shit à Paris, revendre, ramener la drogue dure de Berlin, revendre.
Tout ça dans un marché.
Faire des couilles en platine, quoi.
Des couilles en platine. Tout ça dans un marché hautement concurrentiel. Parce que des fois, il faut sortir la valine.
La CAM est vraiment bonne. Et eux, ils sont courtois.
Et en fait, oui, c'est ça, c'est votre marque de fabrique. C'est-à-dire que vous proposez que de très très bons produits et avec une honnêteté très forte. C'est-à-dire que même si la personne est défoncée, vous lui rendez la monnaie.
Voilà, Marc et Luna sont des dealers gentils et courtois. Tout à fait, non mais c'est ça.
C'est important, parce que c'est comme ça qu'on se crée une réputation.
C'est des dealers
du chaud. Le respect du client, monsieur.
En fait, vous venez une vie de jet-setter.
Non, c'est très frugal. Ils vivent de façon très frugale.
Mais quand même, les fêtes, vous en profitez un peu.
Ah, les fêtes, ils en profitent, évidemment.
C'est en ce sens-là que je parlais.
Oui.
Bah, il ne faut pas, évidemment, après, il ne faut pas dévorer les économies que vous faites.
Tout à fait. Non, mais c'est des tripeurs. Hein, c'est vraiment ça, on est dans le milieu du trip. Hein, les mecs qui prennent de l'acide, qui voyagent, qui deal, qui baroudent le monde, quoi.
Ouais, comment vous étiez vu par la concurrence?
Bah écoutez, on n'a jamais eu de problème.
Enfin,
Marc et Luna, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais dealé, hein, cela va de soi.
Bien évidemment, c'est tout
à fait de la fiction. Mais Marc et Luna, ils n'ont jamais eu de problème. Parce qu'il y a une espèce de fraternité dans le milieu underground. Après, oui, évidemment, il y a eu quelques accrochages, bâton télescopique, il y a eu quand même un peu du grabuge. Hein,
mais vous aviez la lucidité de savoir fuir au bon moment aussi.
Ouais,
il y a des fins de soirée un petit peu athlétiques, vous les racontez.
Ça, c'est un sixième sens.
Oui, c'est ça.
Alors déjà, à la base, il y a l'instinct de keuf. Et après, il y a le sixième sens, du milieu de la nuit.
Y compris aiguisé par les substances.
Oui. Après,
parce que c'est tout un jeu de pas justement être assommé, mais
exactement, il faut se doser.
Mais moi, la question que j'ai, c'est est-ce que vous écrivez, parce que c'est présenté comme une sorte de journal très détaillé sur 2012, etc. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous écrivez et vous romancez au moment des faits, ou est-ce que c'est après coup?
Ah ouais, est-ce que c'est écrit aussi à chaud, à froid? Comment c'est produit un texte pareil?
Oui, alors au départ, c'était comme un journal de bord.
D'accord.
Et j'ai commencé à l'écrire pour la personne qui a inspiré Marco, pour qu'on n'oublie jamais ce qu'on était en train de vivre.
Ah oui, donc c'est vraiment...
Vous écriviez sur quoi? Sur du papier, des nappes en papier?
Sur tout ce que je trouvais, des feuilles de papier, voire même une feuille de PQ. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais dans une bagnole et j'avais que ça pour écrire. Et voilà, donc ça a été du matos brut.
Et vous écriviez lucide ou sous...
La plupart du temps, le matériel brut, ça a été écrit en ECM, état de conscience modifié. Soit sous drogue, avec un panel assez large, soit dans un état amoureux ou sexuel, ou dans la prière, ou dans la transe. Tout ce qui modifie les perceptions. Hein. ECM, état de conscience modifié.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le livre, c'est que ce n'est pas simplement une histoire de drogue. C'est-à-dire que c'est une expérience totale. Ouais. Et quand on parle de sexe, ce n'est pas un petit coup comme ça le samedi soir. Quoi. C'est vous vivez le sexe.
Ce n'est pas du mal du samedi soir, monsieur René.
C'est l'histoire de la... C'est l'histoire de la fureur de vivre. Et l'écriture de ce livre, chaque phrase m'a raccroché à la vie.
Au suivant, j'en veux encore. La moitié du club me passe dessus, à la chaîne. Les bruits de l'orgie montent vers les cieux. J'essore les queues de mon petit con ultrasensible. Je masse du phallus de tout mon périnée. Mon joli bouton de rose aussi. Va et vient d'artiste, rythmique. Du beau boulot de succube. Je sais ce que je veux. Mais là, je passe en mode tigresse. Je deviens une vraie prédatrice, tout feu, tout flamme. Je lasse le fauve, bascule en ECM. Je sombre dans l'instinct, je baise comme on respire. Incandescente, l'autre moitié du Kit Kat Club m'interpénètre. Étourdissement, je suce du jus de corps par litre, délirium. Second extrait de Babylon Express de notre invité ce soir, un mauvais genre sur France Culture, Mathilde Marie de Malfilat. Nous avons été rejoints par le maître Beer. Une question, maître Beer, suite à cet extrait.
Kit Kat Club, oui, je voulais savoir si ce club mythique existait encore. Parce que donc, c'est l'action.
Il est à Berlin.
D'accord. Oui. Ah, à Berlin. Il y avait un Kit Kat Club aux États-Unis. Ah bon, d'accord, oui, je suis trop vieux.
J'aime bien ce ton-là de vieil habitué qui ne retrouve plus ses adresses.
Il faut donc aller à Berlin.
Alors, effectivement, on va terminer là-dessus, Mathilde. C'est ce qui est chez vous, c'est la morale de l'instant, la philosophie du tout ou rien, la volonté de jeter les dés, qui a correspondu à toute cette période, qui est entre la période de la gendarmerie et puis la période d'aujourd'hui. La période, c'est ce qu'a vécu, que vous avez transposé dans les aventures de Luna de Paris et de Marco von Z. Alors c'est ça l'idée, c'est quasiment une expérience, je ne veux pas dire mystique, parce qu'on m'attend au tournant, mais une expérience de dépassement.
Voilà, c'est aller jusqu'au bout de soi-même, aller au bout de ses rêves, et voilà, ne lâchez jamais. Voilà, les gens, lâchez pas, ça.
Et ce que vous disiez, c'est que l'écriture fait partie en fait pleinement de l'expérience.
Oui, et l'écriture, chaque phrase de ce livre, il m'a raccroché à la vie. Ça a été ma raison de vivre. Moi, c'est l'amour, l'art et la naturopathie qui m'ont sauvé la vie.
Ouais. C'est ce que vous dites, c'est les psychiatres fous qui vous ont...
De mon âme.
De votre âme, puisqu'aujourd'hui, donc, la naturopathie, c'est votre nouvelle direction. Donc, vous y trouvez aussi d'excitation et de frénésie que dans les périodes antérieures.
Alors moi, mon parcours de vie, c'est que... Après la gendarmerie, j'ai démissionné et je me suis occupée d'enfants handicapés dans un lycée.
À l'issue de ça, aussi dans le livre.
Tout à fait. À l'issue de ça, j'ai voyagé plusieurs années. Voyagé assez loin. Et ensuite, je me suis formée en naturopathie. Ouais, tout à fait. Et je suis dans ce type d'hygiène de vie actuellement.
Est-ce qu'il y aura une autre forme d'hygiène de vie après la naturopathie ou est-ce que vous avez enfin touché le port?
Ben, écoutez, la vie est belle. La vie est belle, et puis c'est pas fini.
Petite voilà. question de Laurent Polleret, qu'est devenu Marco?
Joker.
Voilà. Mathilde Marie de Malfilâtre, Babylon Express, c'est aux éditions Le Dilettante et c'est le choix de Mauvais Genre, un des choix de cette rentrée. Lointaine démo de Prince datant de 1983. C'est le choix de disque recommandé par Laurent Polleret pour cette semaine dans Mauvais Genre. On passe au moment chronique avec Monsieur Philippe. Monsieur Philippe est allé au cinéma. Tiens donc. Oui, voir l'amour est une fête. Voilà, on avait compris grâce à Mathilde que l'amour était une fête.
C'est un film que nous le recommandons. Voilà. C'est un film de Cédric Anger. Cédric Anger, on se souvient très bien de La prochaine fois, je viserai le cœur, un film qui aussi touchait Mathilde, puisque c'était sur l'histoire de ce gendarme psychopathe qui enquêtait sur ses propres meurtres. Voilà. Et c'était tout à fait passionnant avec Guillaume Canet. On retrouve Guillaume Canet et Gilles Lellouche. Ce sont, au départ, on a l'impression qu'ils se contentent de tenir une sorte de sex shop à Pigalle. On est en 1982. Et on va découvrir qu'en fait, c'est des flics de la mondaine qui sont infiltrés dans ce milieu pour faire un coup de filet. Simplement, évidemment, ils s'aperçoivent que c'est quand même beaucoup plus captivant que d'être finalement policier. Et ce qui est très intéressant, c'est que ils vont être entraînés dans leurs propres aventures. Il y a Michel Faux en prince de Pigalle, donc c'est une espèce de oui. contre-emploi assez flamboyant, en roi des proxénètes. Et au moment où le film va, on a l'impression d'une comédie, un peu une comédie sur le sexe, un peu comme on avait pu voir On aura tout vu ou Attention les yeux, et que le film va basculer dans le polar parce qu'il y a des dettes de jeu. Et finalement, ça devient tout autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on croyait que le grand méchant allait virer à l'opération mafieuse, c'est au contraire une promenade à la campagne et une invitation à l'amour. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que le film sort de ses rails de comédie, de polar, pour devenir une sorte d'ode au cinéma porno des années 80. On y rencontre Xavier Beauvois dans le rôle très touchant d'un réalisateur qui croit, qui pense faire un très grand film. Et ça devient l'évocation de ce moment qui est perdu. C'est pour ça que le film commence avec des images d'archives de Jacques Lang, car vous savez que la loi X, Christophe, qu'on va apprendre ça, date de 75. Mais il y a eu une application beaucoup plus stricte à partir du moment où la gauche est arrivée au pouvoir. Et c'est ce moment-là dont parle le film, qui est 82. Alors 82, c'est juste avant le sida. Et c'est avant que le cinéma porno passe au numérique. On est encore dans l'argentique et il y a encore une diffusion qui laisse espérer des lendemains qui chantent. Et ce qui est très beau, c'est que voilà un film qui évoque le monde du porno et où il n'y a pas de chute. il n'y a pas habituellement, Dieu sait que j'adore Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, mais très souvent on vous montre l'ascension et après la chute. Et nous, la chute, on la connaît. On sait très bien que derrière, il y a le sida, il y a la vidéo pourrie qui donne YouTube aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec le cinéma de cette époque-là. Mais il n'y a pas besoin de le mettre dans le film. Et du coup, ça se termine sur un soleil levant. Et ce qui est assez poignant, c'est de voir que ces personnages s'imaginent que la vie est à eux, alors que nous, on sait très bien que la fête est finie.
Christophe Mir.
Oui, oui. 82, Jack Lang a fait des descentes de police dans les salles de cinéma. Donc, je pense qu'on doit voir ça dans le film. Non,
donc, il n'y a pas les descentes dans les salles de cinéma, mais c'est ce contexte-là, absolument. C'est ce contexte-là qui est évoqué. Et en même temps, on a du coup le tournage d'un film porno. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est un film qui s'affranchit pour offrir une rêverie sur une époque qui n'en était pas une. Et une marque très intéressante, c'est que pour le casting, pour trouver des actrices pour jouer, ça a été un délire, parce qu'il lui fallait évidemment des actrices qui étaient non tatouées, non piercées, et qui gardaient évidemment toute leur pilosité.
Le personnage de Xavier de Beauvois, d'après vous, Philippe, il est inspiré d'un cinéaste précis ou d'un ensemble de cinéastes de l'époque?
Je pense que ça nous évoque à la fois Mulot, à la fois Kikoïne, qui sont remerciés, qui sont remerciés au générique, et donc on y pense très fort. On a l'impression de voir Marilyn Jess, qui d'ailleurs a un petit rôle sous son nom de Dominique III.
Mathilde, vous avez connu des gendarmes qui enquêtaient sur le milieu du sexe?
Non, là c'était vraiment les anti-vivisections, les anti-fourrures, anti-nuques, voilà.
Donc c'est un autre étage, un autre couloir. C'était pas là où vous étiez. On passe au deuxième film de ce soir, Frayeur de Lucio Fulci. Oui, merveille. Alors là,
un classique Artus des film voilà,
boucle la trilogie.
Parce qu'on vous avait parlé de l'enfer des zombies. Voilà. Entre-temps, cet été sorti L'Au-delà. Maintenant, il y a Frayeur. Bon, comme on est très gourmand, on aimerait qu'il termine la trilogie de l'enfer avec La maison près du cimetière. Ce serait logique. Mais je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. Le principe, c'est une édition combo Blu-ray DVD. Un livre. Alors le livre, comme dirigé par Lionel Grenier, qui dirige la collection, donc chez Artus, l'idée c'est que comme on a pas mal déjà sillonné Fulci, consacrer le livre à des à côté. Là, c'est le côté Lovecraftien du film, puisque comme vous vous souvenez, le film s'ouvre sur la pendaison, le suicide d'un prêtre dans la ville de Dunwich.
Oui, qui est donc évidemment, la ville Lovecraftienne.
C'est la ville Lovecraftienne. Alors, du coup, le livre est consacré à Lovecraft, alors que les suppléments vidéo sont consacrés, les entretiens sont consacrés au film, et notamment on a toute sa ration de comment on a tourné à Savannah aux États-Unis et comment ils ont un peu métamorphosé Savannah, puisque comme Dunwich n'existe pas, il fallait trouver un moyen, donc avec le brouillard, avec la poussière la journée. Il y a ce travail, ce qui est très intéressant dans le film, c'est le travail sur la pourriture du monde, c'est-à-dire que après L'Enfer des zombies, donc le succès formidable de L'Enfer des zombies, Fulci va décider de se lancer dans cette trilogie de l'enfer, à partir de scénarios plus originaux. Donc on retrouve la mythologie zombie, je pense que c'est aussi pour rassurer les producteurs, au bout de 4 minutes, il y a quand même un type qui se lève un macabé qui se relève d'un tas de feuilles mortes, on est bien chez les zombies, sauf que Ils ne procèdent pas comme chez Romero ou comme dans L'Enfer des zombies, c'est-à-dire qu'ils apparaissent plutôt comme des fantômes. Ils apparaissent et ils disparaissent plutôt que de se mouvoir. Mais sauf que quand ils apparaissent, ils peuvent vraiment vous dévorer entièrement. Et donc, il y a cette espèce de pourriture du monde, mais qui est aussi une pourriture des esprits. Et je pense que Luna pourrait faire une campagne contre tout ce qui se passe dans cette ville-là, parce qu'on voit par exemple un type qui s'en prend à un demeuré, un simple d'esprit. Il a peur qu'il s'en soit pris à sa fille.
Il lui fore le crâne avec une perceuse.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est extraordinaire.
C'est Valentino Valentini, l'homme
des Tontons Flingueurs,
le seul survivant des Tontons. Travail.
Oui, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans un film de zombies, la scène la plus emblématique du film, la plus gore, et il y en a quelques-unes, est justement pas du tout liée au surnaturel et au fantastique. Et je pense que c'est cette conception chrétienne de Lucio Fulci.
Soutenick, Fulci était le grand promoteur de l'horreur catholique.
Voilà, et d'ailleurs, il y a une citation en exergue du film où il dit que voilà, et, il est catholique, mais qu'il ne croit pas au paradis. Il pense que Dieu l'a quitté.
Ouais, d'ailleurs, il y a les larmes de sang, puisque ce prêtre qui s'est suicidé, son suicide, la malédiction de son âme ouvre les portes des enfers.
Qu'il faut refermer avant la Toussaint.
Qu'il faut refermer, et là, il a la capacité, en regardant dans les yeux les créatures, et bien de leur faire pleurer des larmes de sang, un peu dans un modèle un peu christique.
Ce qui nous ramène à Léon Blois. C'est pour ça que dans les bonus, on cite Léon Blois.
C'est une excellente production.
D'ailleurs, Akinbé a dit un jour « Dieu est mort ».
Ah. Ben oui, mais là, on va lui envoyer Lucio Fulci. On termine cette émission avec Christophe Beer, bien évidemment.
Le porno m'a toujours ébloui par sa capacité à produire de vraies images nouvelles, chocs visuels arrachés au pouvoir de l'imaginaire, montrer autre chose, autrement, pulvériser l'ordinaire quotidien en matérialisant ce que l'œil ne voit guère frontalement, face à face. Par cet aveu commence l'hommage de Marc Bruimeau à un genre qu'il rapproche, par son fort principe d'irréalité, à l'horreur gore, aux films de combat, aux comédies musicales égyptiennes avec Farid El Atrache, au mélo flamboyant de Douglas Sirk. Pour l'illustrer, l'auteur décortique la filmographie d'un père fondateur du porno américain qui réalisa en 1972 Gorge profonde, Gérard Damiano. Ce n'est pas par cette pochade au succès planétaire qui fait de lui un cinéaste essentiel, mais une série de films tournés jusqu'en 1980, constituant une œuvre écartelée par le rêve d'une révolution sexuelle, l'exubérance des pratiques érotiques et un puritanisme judéo-chrétien, poussant Damiano au néant et à la mélancolie entre plaisir et rétention. Devil in Miss Jones en est le titre majeur, abordant la mort, tabou suprême du porno. Dans un décor de purgatoire épuré, une vierge suicidée prise de remords est autorisée à épuiser tout le catalogue de la luxure. Fellation, lesbianisme, zoophilie, triolisme, double pénétration, elle exsude enfin dans une coprolalie étourdissante jusqu'au final sartrien, glaçant, condamné à ne jouir jamais. Même désespérance dans Memories Within Miss Adji, qui enferme une vieille femme dans la solitude glacée d'une bicoque isolée au cœur d'une campagne hivernale, se remémorant sa piètre existence à moins qu'elle ne fantasme. L'audace formelle du cinéaste éclate dans ses souvenirs intimes par la captation des visages et des regards qui chavirent, par ce que Bruimeau définit comme une scénographie tactile hiératique et primitive, source infinie de tristesse. Story of Joanna, sorte d'histoire d'eau quasi amérienne au dialogue parcimonieux, pousse encore plus loin l'expérimentation visuelle par l'usage que fait Damiano de la macrophotographie et des courtes focales, transformant, selon l'auteur, les épidermes en vastes paysages semi-abstraits parcourus par les humeurs corporelles entremêlées. Il faudrait encore citer Odyssée, noire illustration de la condition humaine, mais aussi des comédies débridées comme Compétition, mise en abîme burlesque et narquoise de la pornographie sous forme d'Olympiade du sexe retransmise par une chaîne de télévision, et l'invraisemblable Let My Puppets Come, qui mêle ardeur et marionnettes partouzeuses. La période vidéo, qui n'est pas négligée, est déprimante. Seul le grain du 35 mm inspiré Damiano pour célébrer les peaux, la chair, les nuits, sous-titre de cet ouvrage publié par Jacques Flamand Éditions.
Merci Christophe Beer, merci Mathilde Marie de Malfila d'avoir
merci
été
à vous.
Ce soir l'invité de Mauvais Genre pour Babylone Express que nous recommandons. C'est aux éditions Le Dilettante. Est-ce qu'un tome 2 est en cours ou...
Il est dans le four.
Il est dans le four, très bien. Ben, on surveillera la cuisson. Je recommande également aussi aux Dilettantes Jour de Dèche. Alors c'est un peu le contre-champ donc de ce livre. Jour de Dèche de Didier Delhomme. Et puis aux éditions Artus Film, et bien Frayeur de Lucio Fulci dans une super édition collector.
Et l'amour est une fête au cinéma.
Et l'amour est une fête, c'est au cinéma. Fête au cinéma. Et allez voir le film de Cédric Anger. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Montet, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer, Céline Duchesnay et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain. Nous serons en compagnie de Doha pour son dernier roman à paraître chez Gallimard, Les Caillas. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
Called you yesterday, you answered your phone. Main check, knowing that you probably weren't alone. Turn the voice down a little. wanna call you every day, beg you to be near me. I know your head is underwater. I doubt that you could hear me. Let the rain come down, the rain come down. Let the rain come down, down. Let the rain come down, the rain come down. Let the rain come down, down. Days, 17 long nights. Major, and knowing that you're holding someone else tight. I wanna call you every